VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 28 août 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. La CEDEAO réunie en sommet veut des élections au Mali dans un délai de 12 mois et réitère sa demande d'une transition civile. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, visé par une enquête, dénonce un règlement de compte. L'ONU dénonce les menaces de mort visant le gynécologue congolais Denis Mukwege et demande aux autorités d'arrêter les auteurs de ces menaces. Nous reviendrons sur la clôture de la convention républicaine avec le discours du président Trump qui a accepté sa nomination. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Un sommet virtuel extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu ce vendredi pour se pencher sur la situation au Mali. L'organisation sous-régionale exige des militaires la mise en place d'une transition civile et l'organisation d'élections dans un délai d'un an. Les précisions de notre correspondant au Niger, Abdelrazak Idrissa.
Nous allons procéder à la clôture de notre conférence.
La principale décision de ce sommet extraordinaire est celle consistant à demander aux responsables du CNSP d'engager immédiatement une transition qui doit prendre en compte notamment la nomination d'un président et d'un premier ministre, tous des civils, qui mettront en place un gouvernement et organiser des élections dans un délai de 12 mois. Aucune structure militaire ne devrait être au-dessus du président de la transition, précise le sommet. Les chefs d'État de la CEDEAO qui annoncent par ailleurs que c'est seulement la mise en œuvre de ces décisions qui conditionne la levée des mesures prises contre le Mali le 20 août dernier.
Notre sommet appelle à la finalisation urgente d'un accord sur la transition politique entre la CEDEAO et le Mali et invite l'Union africaine et les Nations unies à endosser cet accord. Ces mesures contribueront certainement à guérir le Mali des démons du putschisme.
Le 7 septembre prochain, le sommet ordinaire de l'organisation fera le point de la mise en œuvre de toutes ces mesures et prendra le cas échéant d'autres.
Je déclare clos.
Abdelrazak Idrissa en Niamey pour VOA Afrique.
L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz se dit victime d'un règlement de compte et d'une détention arbitraire 3 jours après avoir fait l'objet d'un interrogatoire policier sur des soupçons de corruption. Le point avec Mohamed Diop à Nouakchott.
Mohamed Ould Abdelaziz s'attaque d'abord à la commission d'enquête parlementaire en disant qu'elle a été créée pour régler des comptes et le diaboliser lui-même. Et cela simplement pour l'empêcher de faire de la politique. Mais cette politique, l'ex-président dit qu'il va la faire s'il en a envie, même si besoin avec une seule personne, voire lui seul devant l'écran de son ordinateur. Et sur l'origine de sa richesse, objet de doute de la commission d'enquête parlementaire, l'ex-président dit n'avoir rien à se reprocher et ajoute que la Cour suprême connaît l'origine de sa richesse, car sa déclaration de patrimoine a été écrite et signée. Enfin, Mohamed Ould Abdelaziz accuse la police des crimes économiques d'avoir violé la loi en l'auditionnant. Selon lui, le chef de l'État n'est pas comptable des actes commis durant sa fonction, sauf en cas de haute trahison. La Constitution est claire là-dessus, dit l'ex-président. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Amnesty International demande aux autorités ivoiriennes de prendre immédiatement des mesures destinées à prévenir les violences qui ont déjà fait 8 morts suite à l'annonce de la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre. L'ONG a également dénoncé l'arrestation et l'inculpation pour incitation à la révolte d'une responsable de la société civile en Côte d'Ivoire, Poulchéri Balé. En République démocratique du Congo, 2 élèves ont été tués, 2 autres blessés dans l'attaque de l'école où ils passaient leur examen de fin de cycle primaire dans le Nord Kivu. L'attaque a été perpétrée par un groupe non identifié dans le village d'Ongoyi au Nord Kivu, selon l'administrateur de ce territoire, Cosmas Kangokolo. Des dizaines de groupes armés sont actifs dans cette région de l'est du pays où l'armée peine à les déloger malgré les opérations militaires d'envergure lancées depuis fin octobre. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme demande à la République démocratique du Congo de mener une action rapide pour que les auteurs des menaces de mort contre le docteur Denis Mukwege soient jugés. Sa vie semble être sérieusement menacée, a déclaré Michel Bachelet dans un communiqué. Fin juillet, le docteur Mukwege, lauréat 2018 du prix Nobel de la paix, a dénoncé des menaces et intimidations le visant et ses proches après qu'il a dénoncé un nouveau massacre de civils dans la province du sud de Kivu. La polio a refait son apparition au Soudan après avoir disparu depuis plus d'une décennie, alerte l'ONU, alors que l'OMS avait annoncé mardi l'éradication de la maladie en Afrique. Le point avec Nanit Talani.
Au moins 13 personnes ont été affectées par la poliomyélite dans 9 des 18 États du Soudan depuis l'apparition du premier cas le 9 août, affirme l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Soudan. Il précise que le poliovirus sauvage de type 2, sur les trois qui existent, a été détecté dans des prélèvements effectués dans l'État de Khartoum, qui abrite la capitale soudanaise, ce qui indique l'éventualité d'une large circulation du virus dans le pays. Des cas ont aussi été rapportés en Éthiopie, en République centrafricaine et au Tchad. L'ONU s'inquiète que cela n'accroisse les risques de propagation du virus au Soudan, notamment au Darfour, en raison des mouvements de population. Le ministère soudanais de la Santé et ses partenaires onusiens préparent une vaste campagne de vaccination pour 5 millions d'enfants de moins de 5 ans. L'ONU a besoin de 20 millions de dollars pour financer cette campagne. Mardi, l'OMS avait affirmé que la transmission du poliovirus sauvage avait été interrompue en Afrique. La poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse qui touche principalement les enfants. Elle peut provoquer une paralysie irréversible, voire la mort.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Fin de la convention du Parti républicain hier soir aux États-Unis. Le président Donald Trump a formellement accepté la nomination de son parti pour un second mandat en présentant son rival démocrate Joe Biden comme une menace pour la grandeur de l'Amérique. Le point avec Claire Moingebourg.
À moins de 70 jours de l'élection, Donald Trump a clôturé la convention républicaine en résumant le bilan de son adversaire à une série de trahisons et de gaffes.
No one will be safe in Biden's America.
Personne ne sera en sécurité dans l'Amérique de Biden, a lancé le président républicain, alors que cette élection va se tenir dans un contexte de crise sans précédent, les tensions raciales et la pandémie du coronavirus. Dans un discours de 70 minutes, il a mis en avant son action face au Covid-19 et a promis un vaccin avant la fin de l'année. La pandémie du coronavirus a fait plus de 180 000 morts aux États-Unis. Le président Trump est aussi revenu sur les manifestations du mouvement Black Lives Matter. Si le Parti démocrate veut se ranger du côté des pilleurs et des brûleurs de drapeaux, c'est leur problème. Mais en tant que président, je m'y refuse, a-t-il affirmé. La convention républicaine s'est achevée sur un spectaculaire feu d'artifice avec le Washington Monument en toile de fond. Un décorum qui contrastait singulièrement avec le cadre beaucoup plus sobre de la convention démocrate qui a investi Joe Biden.
Rassemblement ce vendredi à Washington pour réclamer la fin des violences policières contre les Noirs après une série de bavures. 57 ans jour pour jour après l'emblématique discours du leader de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King, I Have a Dream, les Américains étaient invités à marcher à nouveau ce vendredi sur la capitale fédérale pour réclamer l'égalité entre tous. Des proches de Jacob Blake, grièvement blessé dimanche à Kenosha, participent à cette marche. Une délégation israélo-américaine se rendra dès lundi aux Émirats arabes unis pour le premier vol commercial direct entre Tel Aviv et Abu Dhabi. Le conseiller de la Maison-Blanche et gendre du président Trump, Jared Kushner, attendu dans les prochains jours en Israël, a affirmé hier qu'il prendrait part au premier vol commercial direct entre Israël et les Émirats arabes unis. Les deux pays avaient annoncé le 13 août la normalisation de leurs relations. Les parlementaires libanais entament lundi des consultations devant aboutir à la désignation d'un nouveau premier ministre. Elles se tiendront près de 3 semaines après la démission du gouvernement, après l'explosion meurtrière de Beyrouth. Les manifestants accusent la classe politique d'être responsable de l'explosion du port qui a fait plus de 180 morts et soufflé des quartiers entiers de Beyrouth en raison de leur négligence et de leur corruption. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par John Lyndon.
Kenya Airways s'attend à une baisse de ses revenus qui devrait se chiffrer à au moins 555 millions de dollars pour toute l'année 2020. C'est du moins ce que déclare ce vendredi son directeur général après avoir enregistré une perte avant impôt plus importante au premier semestre. Les législateurs nigériens ont chargé le plus haut comptable du pays d'enquêter sur les paiements totalisant 18 milliards de dollars en dividendes de l'investissement du pays dans la société de gaz naturel liquéfié du Nigeria entre 2004 et 2019, selon un communiqué du Sénat. La société de gaz naturel liquéfié du Nigeria est un consortium réunissant la Nigerian National Petroleum Corporation, ENI, Total et Royal Dutch Shell. Ici aux États-Unis, Amazon, le géant du commerce en ligne et des technologies, commercialise depuis jeudi un bracelet sans écran baptisé Amazon Halo qui mesure et évalue en permanence l'activité physique des utilisateurs grâce à des systèmes d'intelligence artificielle. Comme avec les nombreux accessoires et montres connectées, l'idée est de pouvoir évaluer sa santé et son bien-être de façon précise et personnalisée et d'apprendre comment les améliorer. Le bracelet coûte 65 dollars en pré-vente aux États-Unis avec 6 mois d'abonnement aux fonctionnalités avancées, puis il sera vendu pour 100 dollars avec un abonnement mensuel de 4 dollars.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le feuilleton à l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de football est loin d'être terminé. Des médias font état de la demande de la FIFA de suspendre, et ce jusqu'à nouvel ordre, le processus électoral pour l'élection du nouveau président. Des sources affirment que la FIFA évoque le climat délétère qui a émaillé lundi dernier la rencontre de la commission électorale. Le président de la commission, l'ancien ministre des Sports, René Diby, a claqué la porte ce jour-là et la FIFA estimerait que cette situation n'aurait pas permis la reprise des travaux en toute quiétude. Hier, la commission électorale avait validé les candidatures de Sori Diabaté et d'Idriss Diallo, rejetant deux autres dont celle de Didier Drogba. Affaire à suivre donc. Au Burkina Faso, le championnat de football reprendra le 19 septembre pour une nouvelle saison 2020-2021. Il mettra aux prises 18 clubs, contrairement aux 16 de l'exercice passé. La fédération est désormais présidée par Lazare Bansé, élu samedi dernier, en remplacement de Sita Sangaré. Au Sénégal, la nouvelle saison 2020-2021 commencera le 2 janvier 2021. Des nouvelles de transfert, le jeune défenseur espoir sénégalais Moussa Ndiaye a rejoint l'équipe B du FC Barcelone pour 3 ans, plus 2 années en option. Âgé de 19 ans, Ndiaye a été vice-champion d'Afrique des moins de 20 ans l'an dernier au Niger et a été élu joueur du tournoi. Il a été formé au centre Aspire de Dakar et le sélectionneur Aliou Cissé l'a incorporé dans son groupe pour les éliminatoires de la CAN 2021 en novembre dernier. Le défenseur brésilien Thiago Silva, arrivé en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, a lui signé pour 1 an plus 1 année en option pour le club anglais de Chelsea. Après 8 saisons dans la capitale parisienne où il a disputé 315 matchs, l'ancien capitaine du PSG aura bientôt 36 ans. Les Blues ont recruté plusieurs joueurs, dont le milieu offensif marocain Hakim Ziyech. Ici, en basketball, après le boycott et le report de match, la NBA espère le retour au jeu, invoquant une union sacrée entre dirigeants et joueurs pour parvenir à finir la saison. Malgré la colère résultant de l'affaire Jacob Blake, rien n'a filtré de la longue conférence téléphonique qui s'est déroulée durant plusieurs heures hier, impliquant un groupe de joueurs, des représentants de leurs syndicats, les cadres et propriétaires des 13 équipes encore en lice à Orlando. L'instance n'a pas fait d'annonce. Elle qui avait dit espérer reprendre le jeu ce vendredi ou demain samedi. Pour l'heure, ce sont 6 rencontres qui ont été reportées. Selon le site des Athletics, les joueurs ont pressé les propriétaires pour qu'ils soient plus proactifs, pas réactifs, dans la lutte contre l'injustice raciale. Les basketteurs ont été suivis par certains joueurs du baseball, du tennis et du football américain.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Présidentielle américaine 2020, le président Donald Trump a conclu la dernière nuit de la Convention nationale républicaine par un discours d'acceptation prononcé devant quelques 1500 personnes sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Un reportage de Patsy Huidakaosora relaté par Nathalie Barsch.
Jeudi soir, le président Donald Trump a répété un thème qu'il avait abordé dans son discours à la Convention républicaine de 2016 et lors de sa prestation de serment en 2017.
Cette élection décidera si nous sauvons le rêve américain ou si nous permettons à un agenda socialiste de démolir notre chère destinée.
Après ses frères et sœurs qui ont déjà parlé cette semaine, Ivanka Trump a présenté son père.
Ce soir, je me tiens fièrement devant vous en tant que fille du président du peuple.
Alors que les troubles sociaux et la violence de rue continuent, M. Trump a mis l'accent sur l'ordre et la loi, critiquant son adversaire démocrate Joe Biden, tentant de le dépeindre comme un cheval de Troie contrôlé par l'extrême gauche du Parti démocrate.
Joe Biden is weak. He takes his marching
orders. Joe Biden est faible. Il prend ses ordres des marches d'hypocrites qui enfoncent leur ville dans le sol tout en fouillant loin des lieux de l'épave.
Les conventions démocrates et républicaines ont été critiquées pour leur grand penchant à glorifier leur candidat et calomnier l'adversaire sans beaucoup se concentrer sur la politique. William Howell est professeur de politique américaine à l'Université de Chicago.
Nous n'avons pas encore entendu une idée claire des problèmes que le président souhaite aborder. Il y a une vague promesse de retour à la prospérité économique, comme il a déclaré auparavant, mais pas de détails sur la façon dont ce sera fait ou comme il finirait par éliminer la pandémie.
La Convention républicaine a ciblé, entre autres, les femmes et les minorités à travers le discours d'Alice Johnson, une femme noire condamnée à perpétuité pour trafic de drogue, graciée par Donald Trump après 23 ans de prison, et celui d'Anne Dorn, veuve d'un officier noir à la retraite, tué lors d'une manifestation. Amanda Ovino, stratège républicaine.
Le fait d'humaniser Alison Johnson a mis un visage sur la réforme de la justice pénale. Et je pense que le discours le plus émouvant de la soirée a été celui d'Anne Dorn. Là aussi, on avait un visage et de l'émotion dans les passages sur l'ordre et la loi. Et je pense qu'elle a vraiment touché les électeurs de la banlieue.
Au cours de cette dernière journée de convention républicaine, des manifestants anti-Trump s'étaient rassemblés devant la Maison-Blanche, un signe que le pays reste polarisé à l'approche de la présidentielle du 3 novembre. La décision d'organiser certains événements politiques à la Maison-Blanche a été critiquée par certains analystes comme une violation de l'éthique de la frontière entre campagne et gouvernement.
Série de réactions en République démocratique du Congo contre l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, Vincent Karega, accusé de nier les massacres de Congolais dans lesquels l'armée de son pays serait impliquée. Une pétition est en cours pour exiger son expulsion et des voix de politique s'y sont mêlées, comme celle de l'opposant Martin Fayulu et quelques autres personnalités. Eddy Issongo a recueilli de Paris la réaction d'un activiste du mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement. Il s'agit de Bienvenue Matumo.
Nous demandons aux autorités congolaises de pouvoir ramener l'ambassadeur de la Sassi sur le territoire rwandais pour qu'on respecte les Congolais. On doit apprendre à respecter les Congolais. On ne peut pas se permettre de nier une histoire, de cracher sur la mémoire des victimes et croire qu'on va être applaudi, qu'on doit être tranquille comme si rien n'était. C'est pourquoi nous sommes des militants, nous sommes des activistes. Nous demandons que l'expulsion soit effective pour montrer à tous les voisins, à tous les peuples étrangers, à toutes les autorités étrangères de commencer à respecter les Congolais dans leur diversité. On ne peut pas cracher sur une histoire, on ne peut pas cracher sur la mémoire des gens qui ont été tués innocemment et gratuitement par une armée rwandaise qui voulait faire la guerre chez nous.
Il y a une pétition qui est en circulation dans les réseaux sociaux. Combien de signatures avez-vous recueillies jusque-là?
Vous savez que tout le monde n'a pas accès à l'Internet au Congo, mais ce sont les représentations, les échantillons assez larges qui montrent que les Congolais dans leur ensemble demandent l'expulsion. Nous, nous sommes des jeunes, nous avons accès à la technologie. Mais quand nous parlons à nos mamans, nous parlons à nos connaissances, à nos membres de famille qui ont vécu les atrocités de cette armée rwandaise, sont d'accord avec nous que cet ambassadeur doit être rapatrié, doit être expulsé pour montrer la dignité, la fierté de notre pays. Vous imaginez un Rwandais venir cracher sur la mémoire des Congolais alors que c'est l'armée rwandaise qui était venue tuer les citoyens congolais sur notre territoire. C'est méprisant, c'est insultant, on n'accepte pas, on n'accepte pas.
Il a été reçu par le président de la République et d'après les informations que nous avons reçues, on lui aurait reproché cette déclaration ou ses posts sur Twitter en parlant bien sûr d'autres choses. Cela ne suffisait pas?
Tout ça c'est insultant. Non mais moi ça me choque de voir que on l'a mis de ses propos insultants la mémoire du Congolais. Il a été reçu à tapis rouge. Montre une fois de plus que les politiques congolaises sont déconnectées des réalités sociales et économiques de notre pays. On ne peut pas recevoir un messier qui a craché sur la mémoire des Congolais à la première institution de la République. Nous, on a lu les tweets de la présidente, d'une part, on a mentionné qu'on a recadré les messieurs. Non, c'est vous qui le dites, mais la communication officielle du président de la République, ou bien de ses services, n'a pas mentionné que l'ambassadeur a été recadré. À Kigali, Kagame ne peut pas dérouler un tapis rouge à un ambassadeur étranger qui oserait nier le génocide au Rwanda.
Qu'y avait-il de mal à demander plus de précisions? Parce que dans les tweets, il parle d'un narratif simpliste, de calomnie, de propagande. Il demandait beaucoup plus de détails. Parce qu'il n'y avait que deux villages dénommés.
Non, mais ce n'est pas la première fois que le Rwanda fait ce discours. Vous savez que depuis très longtemps, le Rwanda s'oppose d'abord à Formapin, qui a documenté des atrocités qui ont été commises dans cette région. Et surtout que parmi les auteurs, il y a des officiers rwandais. Deuxièmement, vous avez suivi les propos menaçants du général James Kabarebe vis-à-vis du docteur, qui est aujourd'hui le porte-voix de la Formapin, l'auteur Denis Mukwege, le prix Nobel. Et donc, c'est une stratégie bien ficelée du Rwanda.
C'était Bienvenue Matumo du mouvement citoyen Lucha.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Burkina Faso, le code électoral a été modifié pour tenir compte de l'insécurité dans plusieurs zones du pays qui pourrait empêcher le bon déroulement des élections présidentielles et législatives de novembre. Pour le gouvernement, il s'agit de minimiser les risques d'insécurité pendant la période électorale. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
À quelques trois mois de la présidentielle et des législatives, le gouvernement via le Parlement a modifié certaines parties du code électoral. Parmi les articles modifiés, un suscite la polémique, la prise en compte des cas de force majeure. Le Covid-19 et surtout la situation sécuritaire sont des raisons qui ont justifié la modification du code électoral. Sur les 120 députés qui ont voté la loi, 107 ont voté pour, 9 contre et 4 se sont abstenus.
Pour moi, le gouvernement a voulu nous faire porter un peu le chapeau de son échec.
Aziz Diallo, député maire de Dori dans le Sahel, ses proches de la majorité a voté contre cette loi.
Non seulement ce sont des gens qui subissent le martyre depuis longtemps pour des questions sécuritaires, qui sont obligés de se déplacer, qui ont la difficulté à se nourrir. Et aujourd'hui, on va leur dire, bon, ce n'est même pas la peine de voter. Restez dans vos camps, restez dans vos zones là-bas. Les quelques-uns qui vont pouvoir voter vont élire vos maires, vont élire vos députés, vont élire le président du Faso, mais restez quand même dans la République. Moi, pour moi, il y a mal donné quelque part.
Il n'était pas nécessaire, à mon sens, d'ajouter un alinéa qui dise qu'en cas où on n'a pas pu faire tout l'enrôlement, c'est ceux qu'on a pu enrôler qui participent au vote.
Siaka Koulibaly est analyste politique.
Sur le plan purement politique, je me demande pourquoi le chef de l'État n'a pas aperçu cet aspect-là. C'est écrit dans la loi maintenant qu'en réalité, il y a une partie du territoire qui n'est plus sous contrôle de l'État. Or, en ne le disant pas, on suppose que l'ensemble du territoire est sous contrôle de l'État. Et la procédure est précisée ici. Le président du FASO va saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va déclarer certaines régions non accessibles. Et c'est dans le bilan du chef de l'État qu'on va voir que, sous son mandat, le territoire a été réduit.
Certains observateurs pensent que ce sont ces types de situations qui entraînent les crises post-électorales. Mais le gouvernement se défend. Siméon Sawadogo est le ministre de l'administration territoriale.
Nous sommes dans une situation difficile, donc nous allons faire pour minimiser au maximum donc les risques d'insécurité donc pendant donc cette période de vote. Ce n'est pas dans l'intention du gouvernement d'amener une loi conflictogène à l'Assemblée nationale. La loi ici est faite pour permettre qu'il y ait les instruments juridiques nécessaires permettant au processus électoral de se dérouler et que l'ensemble donc des contentieux qui pourront effectivement naître puissent avoir des bases juridiques pour être tranchées. C'est tout.
La réduction du délai de couverture des campagnes dites déguisées avant la campagne électorale de 90 jours à 30 jours, le maintien des démembrements actuels de la commission électorale à l'extérieur du pays, à savoir les commissions électorales indépendantes d'ambassade et les commissions électorales indépendantes de consulat, l'harmonisation de la durée de la campagne électorale pour les législatives avec la présidentielle à 21 jours, la réduction du délai de traitement des requêtes par la commission électorale de 7 jours à 72 heures sont entre autres des points qui ont été modifiés dans ce code électoral. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Sénégal, l'impact des restrictions anti-Covid dans le domaine de la culture est très important. Tous les lieux de divertissement sont fermés. La majorité des acteurs du secteur sont brusquement sevrés de revenus. Une situation dramatique pour les artistes, gérants de boîtes de nuit, réalisateurs, entre autres. De notre correspondant à Dakar, c'est Dina Abagay.
Les principales restrictions imposées par les autorités dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 touchent directement les acteurs culturels. Chez les producteurs et réalisateurs de téléfilms et clips, les tournages et autres prestations ne sont plus d'actualité, comme l'indique Abdoulaye Meng Dikaba, directeur de Manco Productions.
Bien sûr que ça ne marche pas comme avant, parce que quand on dit cinéma, quand on dit réalisation audiovisuelle, on dit rassemblement. Et puisqu'on a interdit les rassemblements et les masques aussi, donc logiquement tout s'arrête quoi. Non, même les répétitions on a arrêté tout pour ne pas créer pour maintenir la distanciation et éviter les rassemblements. Donc raison pour laquelle on a stoppé toutes nos activités donc jusqu'à nouvel ordre.
Le show business est également très touché avec la fermeture imposée aux lieux de divertissement. Avec cette interdiction prolongée, les gérants de boîtes de nuit sont au bord de la rupture financière. Massa Mandiaye confie que les conditions actuelles ont mis à terre toutes leurs affaires.
Les boîtes de nuit ne marchent plus parce qu'avant la crise pandémique, le business des boîtes de nuit marchait à merveille. Avec la présence des artistes qui jouaient des lives, mais avec le coronavirus, il n'y a plus personne. C'est pas parce que les gens ont peur de la maladie, mais plutôt que l'État a imposé des mesures préventives que nous sommes obligés de respecter, car les règles sont inviolables. C'est une situation catastrophique pour les pères de famille que nous sommes, mais on s'en remet à la volonté de Dieu.
La plupart, nous n'avons rien à faire.
Du côté de certains artistes, les dégâts financiers sont beaucoup plus importants. Entre les tournées annulées et les contrats rompus, le groupe de Job Sebren évolue à plusieurs dizaines de millions ses pertes. Des pertes que la maigre subvention de l'État n'a pas pu combler, comme l'affirme Gamou Diara, un des membres du groupe.
On devait faire des tournées en France et aux États-Unis, sans compter nos tournées à l'intérieur du pays. On devait récolter beaucoup d'argent de ces manifestations. Mais bon, il est clair qu'on a beaucoup perdu de cette crise pandémique. L'État nous a soutenus, mais pas de manière suffisante par rapport à nos cachets dans les manifestations. Le montant de la subvention n'est que de 126 500. On ne dit pas que cela ne signifie rien, mais ils doivent mieux penser au devenir des artistes puisque la crise commence à perdurer.
Les 3 milliards de subventions allouées par l'État n'auront donc pas suffi à perfuser le secteur culturel face aux dommages de la COVID. Certains acteurs jugent d'ailleurs ce montant dérisoire vu le nombre élevé de bénéficiaires et les restrictions qui imposent un arrêt total des activités. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
C'est la fin. fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon, Gisèle Morissin et Lionel Gaïma. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.